Le quartier juif se localise à l'ouest de la cité de Toledo. On entre dans la ville à ce qu'on appelle au Moyen-Âge la forteresse des Juifs. L'entrée, c'est pour la porte de Cambron, la Puerta de Cambron. Et on compte plus de 11 synagogues à la fin du XIVe siècle. Nous sommes ici, derrière de la synagogue de Santa Maria la Blanca. C'est un bâtiment qui a été construit probablement au début du XIIIe siècle. Et c'est le bâtiment le plus ancien qui a été préservé des quartiers juifs médiévaux de Toledo.
בין את אל מציאותו אחד ואין אחיד כייחודו נעלם וגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואין לו גוף לא נערך אליו קדושתו
למומן דה probablement de l'épanouissement de la communauté juive a pris place à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. Les Juifs restent ici jusqu'à l'expulsion, d'Espagne en 1492. Il y a 5-6 ans, quelques Juifs ont demandé le retour de la propriété de la synagogue de Santa Maria la Blanca, qui est dans les mains d'un ordre religieux catholique et n'est pas propriété de l'État. Ils ont demandé le retour à une propriété juive et la question a été l'objet de débats parmi les historiens, parmi les communautés juives aussi. Et la question principale est pour qui ? Combien de juifs est-ce qu'il y a en Toledo? Il n'y a aucun juif en Toledo. Peut-être un, deux juifs isolés, mais il n'y a pas communauté. La communauté plus proche est la communauté de Madrid aujourd'hui. Le judaïsme a été banni à l'Espagne depuis la fin du XVe siècle et la culture espagnole s'est développée au siècle d'or contre les Juifs, contre la présence des Juifs.
L'exclusion par la pureté de sang. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Diffy Mariani.
Il n'y a pas de Juifs à Toledo aujourd'hui. Ouais. Il y a seulement des églises.
Il y a des synagogues qui sont devenues des églises.
Et c'est des synagogues qui restent à Toledo, oui. La synagogue du Transito, c'est-à-dire le Transito de Notre Seigneur. Et la synagogue de Santa Marie la Blanche, c'est la synagogue de Shmuel Alevi, l'homme qui a bâti la synagogue avec son argent, il a été trésorier du roi Pedro I de Castille à la moitié du XIVe siècle. Toledo a été une très intéressante ville, une cité avec une société, avec des Grecs, des conversos, des vieux chrétiens aussi. Pendant une période, a été la capitale de l'Espagne et là, symboliquement, c'est le centre de l'Espagne. Parce que l'archevêque de Toledo, il a été le primat de l'église espagnole, de l'église castillane, et après de toute l'église espagnole.
En
En 1492, les rois catholiques conquièrent ce qu'il reste de territoire aux musulmans de la péninsule ibérique, l'émirat de Grenade, puis expulsent les juifs d'Espagne. L'exil frappe tous ceux qui, un siècle plus tôt, avaient refusé de recevoir le baptême pour devenir des conversos, des nouveaux chrétiens, par opposition à ces vieux chrétiens dont les veines ne véhiculaient pas de sang juif. Les musulmans ne tarderont pas à subir le même sort, de conversion, puis d'expulsion. L'Espagne de la Reconquista se veut unie autour de la foi catholique, puisqu'officiellement, il n'y a plus ni juifs, ni musulmans. Mais pour aller plus loin dans le processus de discrimination, Espagnols et Portugais ne vont pas hésiter à établir une fracture au sein même des catholiques, en instaurant des statuts dits de pureté de sang, la limpieza de sangre, surtout actifs à partir du XVIe siècle. Le but de ces statuts est clair, identifier, pour mieux les reléguer, ces catholiques de seconde zone que sont les nouveaux chrétiens, porteurs de sang juif ou musulmans. Ces statuts divisent aujourd'hui les historiens. Certains y voient une discrimination de nature religieuse, quand d'autres parlent, pour la première fois de l'histoire, d'un phénomène que nous nommons aujourd'hui racisme, dont le fondement est de nature biologique.
La limpieza de sangre, la pureté de sang, fait référence à la biologie, à la race, à la dimension corporelle des individus.
Ignacio Pulido.
La limpieza de sangre est un sujet très intéressant et spécifique à l'Espagne des 15e et 16e siècles. À un moment où cohabitent ensemble des musulmans, des juifs et des chrétiens, alors qu'il faut créer une société commune où tous doivent être chrétiens. La limpieza de sangre établit une hiérarchie où seuls ceux qui sont des vieux chrétiens ont une place privilégiée dans la société.
Et le reste, les chrétiens nouveaux,
quant aux autres, les nouveaux chrétiens, ceux qui ont été baptisés plus récemment, ils occupent une place secondaire. C'est une question qui a préoccupé les Espagnols, mais aussi les Portugais, pendant près de 200 à 300 ans.
Alors l'épisode de la pureté de sang, il est extraordinairement intéressant et il est lui aussi, me semble-t-il, une entrée dans la question de la race qui permet de marquer ce qui pour les historiens est fondamental, véritablement un avant et un après. C'est-à-dire ça fait partie de ces phénomènes historiques qui, au moment de leur surgissement, constituent véritablement une innovation et qui permet, oui, en effet, de dire que quelque chose démarre, quelque part, pour des raisons particulières.
Jean-Frédéric Schaub.
Il se trouve que l'Espagne était un pays qui a subi pendant une période, une longue période médiévale, sur une partie de son territoire, l'installation d'autorités politiques islamiques. Lesquelles autorités politiques islamiques ont exercé leur pouvoir sur une population autochtone, et j'insiste sur le terme d'autochtone, qui était en majorité chrétienne et en minorité juive. Mais à mesure que les pouvoirs chrétiens du nord de l'Espagne se sont avancés vers le sud et ont conquis par phases entières, par région, des territoires qui étaient sous autorité islamique, lorsque ce processus historique est arrivé à maturation, à la fin du XIVe siècle, il s'est produit dans la ville de Séville, qui était à cette date sous autorité chrétienne, mais une autorité chrétienne qui s'exerçait sur une population faite de juifs, de musulmans et d'une majorité chrétienne. Un mouvement millénariste, disons, de fièvre religieuse, a conduit à l'explosion d'un pogrom, d'une violence inouïe, dans la ville de Séville, et qui a fait des émules dans plusieurs grandes villes espagnoles, notamment sur la côte orientale de la péninsule jusqu'à Barcelone. Et ces pogroms contre les Juifs ont abouti à un phénomène de conversion en masse des Juifs.
La moitié du XIVe siècle,
C'est le moment de la peste noire, de Black Death.
Javier Castaño.
La peste noire. Mais la peste vient avec un changement structural en Occident. Il y a des vagues de persécution, des émeutes, des massacres contre les Juifs, ce qu'on appelle la croisade de Pastorelli, des gens qui viennent du sud de la France, traversent les Pyrénées, et ils font des massacres au nord d'Aragon, entre les communautés juives. Et les années 50 du 14e siècle, il y a des émeutes dans beaucoup de villes castillanes. Et nous avons les premières notices des conversions massives des Juifs dans quelques villes andalouses. Dans les années 1360, il y a des émeutes très importantes en Andalousie qui vont porter la conversion massive des Juifs. Généralement, les historiens parlent des conversions massives en 1391, qui sont très connues.
Ces pogroms contre les Juifs ont abouti à un phénomène de conversion en masse des Juifs. Mais ce qui ne veut pas dire que tous les Juifs se soient convertis. Nombreux sont ceux qui ont résisté. Dans un premier temps, ces Juifs devenus chrétiens ont été accueillis à bras ouverts par la société chrétienne, c'est-à-dire qu'ils ont pu commencer à exercer des responsabilités, obtenir des dignités, des charges qui étaient jusqu'alors réservées aux seuls chrétiens, conseiller municipal, magistrat, ecclésiastique, et ainsi de suite. Et en même temps, ils ont été accueillis à bras ouverts dans ce qu'on appelle en histoire le marché matrimonial, c'est-à-dire que des enfants chrétiens ont été proposés en mariage et des enfants juifs devenus chrétiens. Cette phase a duré environ une quarantaine d'années, entre la toute fin, disons, du XIVe siècle et les années 30 du XVe siècle. Et en quelque sorte, la désillusion ressentie par les vieux chrétiens à l'égard de cette opération de conversion et menacés par la concurrence qu'exerçait sur eux l'arrivée de nouveaux venus dans le jeu matrimonial et le jeu politique, a conduit à un événement majeur dans l'histoire espagnole, en 1449, en marge d'une guerre civile qui a explosé dans la ville de Tolède, l'ancienne capitale du royaume wisigothique d'Espagne. En marge de cette guerre civile a été adopté un statut qui interdisait aux descendants de juifs convertis l'accès aux magistratures de la municipalité de Tolède. Autrement dit, on ne pouvait plus devenir conseiller municipal, dirions-nous aujourd'hui, de la ville de Tolède à partir de 1449, si l'on descendait de convertis d'origine juive.
Le statut contre les convertis est établi pour la première fois en 1449. C'est le résultat d'une émeute très violente, révolutionnaire contre le pouvoir royal, c'est-à-dire que l'élite politique de la cité de Toledo a protesté contre le roi pour des raisons fiscales et il commence une émeute qui se développe en révolution, c'est vraiment une révolution moderne, et on établit 5 mois après la révolte, le premier statut contre les convertis ou descendants des convertis pour accéder à quelques positions sociales.
Il nous revient de déclarer et nous déclarons, établissons et ordonnons que tous les dits convertis, descendants du lignage pervers des Juifs, de quelque type qu'ils soient, en vertu du droit canon et du droit civil qui détermine contre eux ce qui suit, comme en vertu des privilèges que le roi de Castille et Léon, Don Alphonse, a accordés à notre ville, qu'ils soient tenus pour infâmes, inaptes, incapables et indignes d'exercer toute charge ou fonction publique ou particulière dans la ville de Tolède. qu'il soit tenu pour infâme, inapte et incapable de prêter foi comme notaire public ou comme témoin. Nous ordonnons qu'ils soient privés de toute charge et fonction qu'ils auraient eues de quelque façon que ce soit dans notre ville.
Il faut bien comprendre qu'au XVe et XVIe siècle, en particulier dans la péninsule ibérique, mais aussi dans d'autres parties de l'Europe, la société est très ouverte, très dynamique, et les possibilités de promotion sociale sont nombreuses. Et c'est précisément au sein de ces classes moyennes, qui aspirent et recherchent la promotion sociale, que sont créés des outils, des instruments pour empêcher d'autres groupes, qui font partie de ces mêmes classes, de pouvoir accéder au même objectif. C'est une sorte de compétition où quelques groupes qui voulaient neutraliser leurs concurrents ont fait pression sur le pouvoir politique pour qu'ils mettent en place et reconnaissent ce critère de sélection qui laissait de côté certains au bénéfice d'autres.
Ese filtro, ese criterio selectivo que deja a unos fuera y prefiere a otros. Pero una de las fórmulas que se piensan entonces por estos grupos intermedios es crear un sistema
juridique. Une des solutions trouvées par ces classes moyennes a été de créer un système juridique, une loi, et adopter des statuts qui discriminent certaines personnes selon leurs origines en fonction de leurs ancêtres.
De qué generaciones proceden, quiénes son sus antepasados.
Et donc l'élément qui nous distingue les uns des autres, c'est le sang.
Es la sangre. ¿Cuál es la sangre
quel
de
est le sang de tes ancêtres?
¿Cuál es la sangre de mis
quel est le sang de mes ancêtres?
Y por lo tanto, el estatuto de limpieza de
par
sangre.
Par conséquent, les statuts de la limpieza de sangre deviennent une base juridique, une règle qui dicte, qui donne un avantage sur les autres, établi suivant l'origine de chacun.
Y esto se establece de acuerdo al origen de cada uno, de quién procede.
Bien sûr, ceux qui sont issus de chrétiens, qui l'ont toujours été, ont un avantage dans la course à la promotion sociale. Ils ont un avantage sur ceux qui descendent de juifs ou de musulmans.
Que descienden o bien de judíos o bien de musulmanes. ¿Por qué la sangre?
Pourquoi le sang? Parce qu'il est supposé que la foi,
la fe, la
croyance, est aussi lié à la généalogie des individus. Et par conséquent, ceux qui ont été baptisés il y a plus longtemps sont considérés comme de meilleurs chrétiens, comme des chrétiens ayant une plus grande conviction dans leur foi religieuse.
Il y a un grand nombre d'intellectuels, nouvelles chrétiennes et vieux chrétiens, qui s'opposent aux statuts, en disant que les statuts viennent contre les dogmes fondamentaux de la chrétienté, qui c'est l'unité des croyants. Les statuts ont été écrits par un misérable qui est le leader révolutionnaire, l'idéologue de la révolution de 1449, Marcos García de Marzán Ambroz, Marquillos. Marcos, il est l'idéologue de la révolution contre les convertis. Il a écrit un pamphlet contre les convertis juifs. Et il y a une liste de juifs qui sont convertis. On utilise le verbe « judaiser »,« judaizare ». C'est un mot latin qui a été utilisé dans les évangiles aussi. « Judaizar ». C'est-à-dire qu'on continue avec les mêmes coutumes religieuses et culturelles qui ont eu avant les juifs, c'est-à-dire qui vont faire la prière juive, ils vont manger les mêmes choses et ils vont continuer avec les mêmes coutumes. Il n'y a pas aucune transformation, parce qu'on doit prendre en compte qu'il y a beaucoup de juifs qui sont convertis sous la force. Thank you.
seulement question d'une sorte d'épuration interne à la communauté chrétienne qui, en son sein même, discrimine ceux qui sont d'origine chrétienne et qui sont du bon côté du manche et ceux qui sont d'origine juive et qui sont considérés comme des chrétiens douteux. Or, à mesure que l'histoire va avancer, il va se produire un double phénomène. D'abord, une imitation de ce statut de Tolède par toutes sortes de corps, de groupes, de corporations ou d'institutions dans cette société-là. Ça peut être la corporation des notaires de Barcelone, ça peut être le chapitre de la cathédrale de Cordoue, ça peut être l'ordre des franciscains, des universités, etc. vont adopter tour à tour ce type de règlement interdisant l'accès à leur communauté à des personnes ayant une origine plus ou moins lointaine, juive, mais des gens évidemment qui sont tous des chrétiens. Et au fond, il y a l'idée que, puisque les Juifs, pendant 14 siècles après la mise à mort de Jésus, Christ, se sont obstinés, génération après génération, à ne pas admettre qu'il avait ressuscité d'entre les morts, qu'il était le Fils de Dieu, ou qu'il était le Messie tout saint, étant équivalent, il y a dans cette obstination juive quelque chose qui relève d'un processus d'essentialisation. C'est-à-dire que des gens qui, pendant tant de générations ont été aveugles, sont des aveugles. Ou ont été aveuglés pendant tant de générations, deviennent aveugles. Et que donc, au fond, leur éloignement de la vérité chrétienne est tellement radical, mesuré dans le temps en quelque sorte, que leur conversion ne peut être qu'une conversion partielle, ou une conversion insincère, ou une conversion superficielle, parce que leur obstination s'est incarnée dans un temps historique tellement long qu'en fond, ils sont irréformables. Donc ça, c'est un peu le fond de sauce idéologique dans lequel baigne, en quelque sorte, la métamorphose de l'antijudaïsme en antisémitisme. C'est-à-dire que même quand le juif cesse d'être juif, il continue d'être juif.
On va maintenant à la villa de Pastrana, qui se trouve à moins de 15 km d'ici. C'est une villa de la zone espagnole appelée Alcarria. Alcarria, c'est un terme arabe qui voulait dire le village.
Mohamed Saadan.
Pastrana va accueillir, grâce à l'influence de Ruy Gomes de la Silva, le duc de Pastrana, va accueillir un grand nombre de morisques déportés, la majorité d'eux jeunes et célibataires. Ces morisques vont être répartis entre le village et l'entourage appelé la panchia. Dans la panchia, ils vont exercer l'agriculture et l'élevage de vers à soie. Et dans le village, ils vont pratiquer le commerce et le travail de soie. C'est à partir de 1572. Les morisques étaient une main d'œuvre. Elles travaillaient pour les chrétiens. Et à la ville, ces morisques travaillaient dans le commerce et les ateliers de la soie. Ces gens arrivés de Grenade vont édifier tout un quartier sous le nom de Albaicín, en commémoration au quartier Albaicín de Grenade, d'où ils venaient. Pastrana, à partir de ce moment, à partir de l'arrivée des morisques, va connaître la splendeur économique, une splendeur qui va durer jusqu'à l'expulsion de ces morisques en 1610. Les morisques de Pastrana sont expulsés en 1610. À partir de ce moment, Pastrana va connaître un déclin parce qu'il va perdre une grande, diligente main-d'œuvre. Cette situation est évoquée par le père Mariano Pérez Cuenca. Il dit, je vais le dire en espagnol, « Expelidos los moriscos de Pastrana, expelidos los moriscos de Pastrana, esta va a tener un gran golpe. » Ça veut dire, expulser les morisques de Pastrana, cette-ci va connaître un grand choc, un choc surtout économique. Alors à partir de 1610, Pastrana va connaître le déclin. Nous sommes maintenant à 3-5 minutes de Pastrana et on va voir le village dès le plateau, depuis le plateau. À gauche, on a ce qu'on appelle le quartier Albaicín. C'est le barrio ou le quartier Albaicín. Cette fontaine était le centre du quartier Albaicín. L'origine de cette fontaine est une origine aussi morisque, même si elle est maintenant reconstruite et tout ça. Comme vous voyez, on est dans la calle Moriscos, la rue des Morisques. Le nom de la rue est donné après le 19e siècle, quand l'Espagne commença à se souvenir des gens expulsés. Avant, on ne pouvait pas donner aucun nom en relation avec les nouveaux convertis à une rue ou à une institution publique. On ne pouvait pas parce que les mosquées étaient des gens inacceptés ou des gens discriminés par la majorité de la société chrétienne de l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui les mosquées, ce sont les derniers musulmans qui ont resté en Espagne après la prise de Grenade ou la chute de Grenade. Ça dépend des perspectives. Les musulmans, on dit la chute, il est chrétien, la prise. Alors, ces musulmans, au début, ça veut dire à partir de 1492, ils ont eu le statut des mudéjar. Ça veut dire des musulmans sous l'égide politique des chrétiens, des rois catholiques. Mais après 1499, ces musulmans vont être soumis à une conversion massive et forceuse. D'abord par le cardinal Cisneros et après par la loi ou l'édict signé par les rois catholiques à Medina del Campo en 1502. C'est après les juifs. À partir de l'arrivée de Philippe II au pouvoir, les conditions des nouveaux convertis des morts vont être durcies et Philippe II, avec la Pragmatica Sanción, de 1567, il va imposer des nouvelles conditions. Les nouveaux convertis des morts ou des musulmans devaient abandonner toutes leurs coutumes, même les vêtements, les hammams, la cuisine, la langue arabe et tout ça. En ce qui concerne la pureté du sang ou la limpieza de sangre, théoriquement, les musulmans ou les morisques, plutôt, les nouveaux convertis de mort, et les judaïsants, los conversos, les convertis des juifs, étaient inclus dans le texte de la limpieza de sangre. Le texte dit littéralement qu'ils ne pouvaient pas avoir ninguna macula de moro o judío. Le terme macula, ça veut dire une goutte de sang. De moro et de judío, ça veut dire tous les deux théoriquement, on était inclus dans le texte. Mais au niveau pratique, les musulmans, ou je m'excuse parce que j'utilise le terme musulman qu'on doit parler des nouveaux chrétiens. J'utilise ça parce que la majorité au fond, ils étaient des musulmans. Ils pratiquaient ce qu'on appelle la taqiyya ou la dissimulation. Les juifs étaient plus exclus concernant la limpieza de sangre que les musulmans. Mais parce que les musulmans avaient une aristocratie collaborationniste qui était utilisée par le pouvoir pour intermédier entre les convertis des morts et les autorités, soit autorités politiques ou religieuses.
¿Qué sabemos que ocurrió finalmente?
Que savons-nous de ce qui s'est passé? La démarche pour prouver sa pureté de sang nécessitait deux choses. De l'argent et de l'influence sociale.
Dinero e influencia social. Entonces, personas con orígenes,
ainsi, les personnes aux origines juives, musulmanes, ou descendants de personnes qui avaient été punies par l'Inquisition, pouvaient obtenir des généalogies pures et parfaites avec de l'argent et de l'influence sociale.
Généalogías limpias, perfectas. Y había personas que podían imaginar, podían ser personas de ascendencia limpísima, pero si no tienes dinero,
il y avait aussi des gens d'ascendance très pure, mais qui n'avaient pas de moyens économiques et d'influence sociale. Ils ne pouvaient pas s'organiser, ni faire face à toute la procédure d'acquisition complexe des certificats de pureté qu'ils devaient présenter aux institutions qu'ils souhaitaient intégrer.
Si
vous aviez de l'argent et de l'influence sociale, vous pouviez obtenir de faux témoignages prouvant votre pureté généalogique. L'important était que les témoignages fournis au dossier soient attestés et certifiés par l'autorité locale. Une fois le dossier constitué, il était présenté au tribunal ou à l'institution que vous souhaitiez incorporer, et avec ces documents, vous aviez ce qu'on appelait les preuves de votre limpieza de sangre, votre pureté de sang.
Se llamaban las pruebas de limpieza de sangre, las pruebas. La forma en la que se
examinaba. Les preuves étaient examinées par l'institution ou le tribunal auquel vous aviez soumis votre demande.
Al que uno sometía su solicitud. Por lo tanto, lo que sabemos
ce que nous pouvons dire, c'est qu'en fin de compte, les statuts de la limpieza de sangre révéler surtout la capacité de certains individus à atteindre leurs objectifs de promotion sociale grâce à leur argent et à leur influence.
Dinero e influencia. Bueno, lo importante, este colegio es el colegio que hace de gobierno, es el colegio central. Nosotros, bueno, se llama el Colegio Mayor de San Ildefonso.
El Colegio Mayor de San Ildefonso
está aquí
es el colegio del gouvernement. Es el colegio principal.
Y es una de las principales
il existe depuis 1500 et est l'une des principales universités d'Espagne. C'est avant tout une université de la Renaissance. Nous sommes dans la cour de Santo Tomás. Vous avez le fondateur là-haut, le cardinal Cisneros. Il a été inquisiteur général, fondateur de l'université, frère de l'ordre de Saint-François et deux fois régent d'Espagne.
Esta universidad es una universidad del Renacimiento donde el estudio de las lenguas.
Cette université, comme je le disais, est une université de la Renaissance où l'étude des langues est fondamentale.
Conociendo la lengua.
À l'origine de l'université, Cisneros a fait venir de Grenade de nombreux livres en langue arabe, parmi les plus importants de la bibliothèque universitaire. Et il a également fait venir des personnes qui avaient les compétences pour comprendre le monde islamique, être en mesure de l'appréhender et de le conquérir. En connaissant la langue, vous pouvez assimiler et convertir les individus. L'université était le moteur intellectuel fondamental de ce projet.
Au début, l'église est contraire à ses statuts. Elle est contre, oui. Elle est violentement contre les statuts. Elle est très claire. Et l'Église, spécialement dans les années 50 du 15e siècle, il va devenir une institution très violente contre les Juifs, comme institution, les papautés. Et on voit ce qui passe en Italie. C'est la constitution de la généralisation des ghettos en Italie. C'est la destruction des exemplaires des Talmud dans les mêmes années. Et en Espagne, c'est la légalisation par les papautés des statuts de Toledo. C'est dans les mêmes années. Et pourquoi l'Église, la papauté, a pris ses positions? Parce qu'il y a une considération plus négative des Juifs et aussi des convertis des Juifs, parce que les Juifs sont une maladie qui contamine, qui pollue la société chrétienne. C'est une question aussi qui a à voir avec la personnalité du pape. C'est le pape Paolo IV, Paul IV, qui est violentement anti-juif.
Les expulsions des Morisques, le décret a été proclamé par Philippe III en janvier 1609, statuant l'expulsion de tous les Morisques des royaumes, de la couronne, les couronnes de l'Espagne. 350 000 selon les calculs de Henri Lapierre dans sa géographie musulmane. Il parle de presque au 350 000 musulmans qui ont été expulsés vers la Berbérie. Je ne sais pas si en français on parle de la Berbérie ou du nord d'Afrique. En espagnol, de Berberia. La Berbérie, c'est tout le nord, la zone septentrionale de l'Afrique. Ils ont été expulsés vers des lieux qu'ils ne connaissaient pas. Le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. Je vais parler surtout du Maroc, par exemple. Ils ont été refusé par la population. Parce qu'ils n'étaient pas des Marocains. Ils étaient des musulmans, c'est vrai. Mais des musulmans avec une macule, en ce cas, de chrétienté. Une macule de chrétienté. Ils étaient des Andalous soupçonnés de pratiquer la chrétienté, le catholicisme. C'est une tragédie, elle s'appelle la tragédie morisque.
Si on travaille avec les archives de l'Inquisition, l'Inquisition fait en quelque sorte système avec la pureté de sang. C'est deux choses différentes. Hein. L'Inquisition est une juridiction religieuse attachée à la couronne de Castille et d'Aragon qui a pour mission de punir des crimes religieux commis par des chrétiens. Et il se trouve que l'une des caractéristiques de l'Inquisition, c'est qu'à partir du moment où elle a repéré des crimes commis contre l'orthodoxie religieuse et qu'elle a condamné des personnes, eh bien, la condamnation de ces personnes retombe comme une marque d'infamie sur les descendants de cette personne sans limite. Et d'autre part, on voit bien que lorsque l'on regarde le travail de l'Inquisition, mettons au début du XVIIe siècle, les inquisiteurs vont accorder une place presque prépondérante à la recherche de la généalogie des inculpés par rapport à l'interrogatoire auquel ils les soumettent concernant leurs pratiques. On en arrive même à des cas où l'Inquisition repère l'origine juive d'une personne à 1/64 de sa composition généalogique. Donc, cette Inquisition, au fond, elle va mettre en place un système d'identification de victimes, de gens qu'il s'agit d'éliminer, qu'il s'agit de condamner, etc., et dont la condamnation va retomber sur leurs enfants des générations et des générations, sur la base de présomptions qui deviennent de plus en plus généalogiques et de moins en moins liées à leurs pratiques réelles. Et donc, qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche le fait d'avoir une mauvaise généalogie. au fond. C'est ça le problème. Et cette mauvaise généalogie constitue la présomption centrale, donc une présupposition que, alors qu'il communie le dimanche au sacrifice de l'Eucharistie, en réalité, il pense à Moïse. Voilà. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que progressivement, la question qui se pose est de moins en moins celle de savoir si ces gens sont réellement de mauvais chrétiens. On va leur faire avouer que ce sont des mauvais chrétiens. Mais au fond, on arrive à eux et on leur reproche, qu'est-ce qu'on leur reproche ? Une mauvaise origine. Et cette présomption que, puisqu'on a une mauvaise origine, on ne peut pas être vraiment un bon chrétien. C'est pas possible. Et en ce sens, je pense que c'est un processus de racialisation. Parce que c'est quoi, là ? Parmi les choses centrales qui caractérisent les politiques racistes contemporaines, penser à l'apartheid, penser aux lois de Jim Crow, bon, etc., c'est de dire... Les gens ont beau montrer, si j'ose dire, patte blanche, ils seront jamais comme nous. C'est-à-dire qu'ils continueront à être englués dans leur identité différentielle, autre, qui n'a pas de possibilité d'amendement réel ou radical. Voilà, c'est ça. Et en ce sens-là, je pense que, en effet, la combinaison des statuts de pureté de sang et du fonctionnement de l'Inquisition a créé un système politique dans lequel l'identité des individus est ramenée à leur généalogie, leur origine, et avec la présomption que leur origine fait d'eux de mauvais sujets.
L'Inquisition commence très violemment avec les convertis. Il y a une épuration totale des familles des convertis qui ont été condamnées. On parle de plus d'un millier. À Toledo, l'Inquisition a commencé un peu plus tard, mais la situation est la même. Nous avons des listes de plus de 1000 descendants de convertis qui sont prisonniers, mais on doit faire la pénitence. Et nous avons des descriptions des processions de milliers de personnes dans les rues de Toledo, sans chaussures, à la froid de l'hiver, avec un flambeau. Ouais. C'est très impressionnant, la description que nous avons de ces processions de pénitentes à Tolède. Et on parle de milliards de personnes qui sont désaffectées par l'activité inquisitoriale dans les premières années, à Tolède, à Séville. Milliards de personnes. Et qu'on parle des gens qui ont été brûlés, on doit compter les brûlés qui ont été brûlés encore vivants et les morts qui ont été brûlés. C'est une logique diabolique. C'est-à-dire, les inquisiteurs arrivent dans une ville et on publie un édict, ce qu'on appelle l'édict de foi. Édict de foi. Et on donne un mois pour arriver aux inquisiteurs et faire la confession, y compris ce que tu as fait, mais aussi ce que tu connais des autres. Si tu ne confesses pas ce que tu sais de l'autre, les inquisiteurs vont te dire pourquoi est-ce que tu as fait l'occultation de l'activité de ton voisin, ou de ton frère, ou de ton père. Alors, avec l'édict de foi, il y a des instructions pour identifier quels sont les signaux de judaïsation. Il y a une liste de choses qu'on doit signaler si tu as vu quelqu'un lire dans un livre en romance, en espagnol, pas en latin. Ou si tu as vu quelqu'un faire la prière dans quelque langue que tu ne comprends pas. Tu as vu quelqu'un manger de la viande au vendredi. L'activité de l'Inquisition était très violente, très active. Mais le statut qui commence une extension sociale générale quelques décennies après contribue à la perpétuation d'une mentalité inquisitoriale à la société espagnole.
Cada día de nuestra vida se junta con las otras páginas y sería lo que llamamos nuestras obras completas. Nuestras obras completas que son las que entregamos al Señor.
On est face à un processus de racialisation comme fait politique ou face à une idéologie raciale comme imaginaire, à partir du moment où on postule que les caractères sociaux ou moraux des personnes ou des groupes se transmettent de génération en génération à travers des mécanismes dans lesquels, de manière réelle ou fantasmée, mais dans lesquels le corps intervient toujours. Et c'est même plus précis que ça, c'est les fluides du corps, c'est-à-dire le sang, le lait et le sperme, sachant que pour les périodes anciennes, le sperme et le lait ne sont jamais rien d'autre que du sang, pour la théorie médicale ancienne. Le monde dont je parle est un monde de l'incarnation. Un monde chrétien, c'est l'incarnation, hein, c'est le verbe qui se fait chair. Et donc, évidemment, pour les hommes de l'époque dont on parle, hein, des 15e, 16e, 17e et même 18e siècle, le sang, c'est pas ce dont s'occupent les hématologues aujourd'hui. C'est pas ça, le sang. Le sang, c'est bien sûr cette liqueur qui circule dans nos veines et qui, par un effet de cuisson interne, se transforme en sperme chez les hommes et se transforme en lait chez les femmes. Mais c'est aussi ce qu'a versé Christ pour racheter les péchés de l'humanité. Et c'est aussi la métaphore de l'héritage patrimonial. C'est-à-dire que la dimension médicale, juridique et théologique du sang sont des choses indissociables. Et vouloir les compartimenter avec notre regard contemporain qui font que bah, pour nous la médecine c'est une chose, le droit c'en est une autre, et la religion une troisième, évidemment ça n'a absolument aucun sens, aucune pertinence, si l'on veut comprendre ce que signifiait sur le plan symbolique et dans ce que ça a de plus profond, le sang à l'époque. Donc ces trois dimensions-là sont indissociables. Donc ça sert à rien de dire, oui non, mais enfin le sang, c'est pas de la biologie, c'est du religieux. Mais bien sûr, c'est et. C'est bien la liqueur qui se transmet naturellement par la procréation de génération en génération. Et c'est en même temps cette chose mystique dans laquelle nous baignons tous et que, encore une fois, Christ a versé pour nous, selon la religion de l'époque. Donc non, bien sûr, il n'y a pas de dissociation entre ces trois dimensions. Le sang véhicule des valeurs morales. Il y a de la race.
Nous parlons d'un monde dans lequel la grande crainte de la société et des institutions est que les croyants s'égarent dans l'hérésie ou divergent d'une foi religieuse pure. Il s'agit donc d'une question de nature religieuse plutôt que raciale. L'idée maîtresse, c'est la foi religieuse dont l'ancienneté est déterminée par la généalogie de chacun.
À partir de l'antiguité, cada uno en la profession de sa foi religieuse.
C'est la croyance que dans notre sang, il y a tout notre être, nos ancêtres et ceux qui vont nous succéder.
Dans notre sang, nous sommes nous, nos antepassés et nos successeurs.
On a affaire à un processus racial quand on pense que les caractères des personnes se transmettent de façon intergénérationnelle dans des processus où interviennent le corps, on y est. Parce qu'en fait, quel est l'objectif? Ça consiste à dire que ces descendants chrétiens de juifs ont un caractère particulier qui fait qu'on ne veut pas d'eux. On ne veut pas qu'ils deviennent notaires à Barcelone, chanoines à Cordoue ou étudiants à Salamanque, dans un collège de Salamanque. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas d'eux en disant que ce caractère répréhensible, par exemple cette infidélité fondamentale et profonde, s'est transmise de génération en génération. Et comment est-ce qu'elle s'est transmise? Par le sang. Le processus social que je viens de vous décrire, avec son fond idéologique, de justification spirituelle, etc., permet de faire travailler la définition, disons, analytique que je vous donnais au départ. Et donc, pour moi, oui, à partir du moment où ce mécanisme, ces règles sont explicitées et opératoires dans la société espagnole, je pense que l'exclusion des nouveaux chrétiens, c'est la manière de les appeler, même si un certain nombre d'entre eux sont passés à travers les mailles du filet, les exceptions ne font que confirmer la règle, en l'occurrence, sont une manifestation d'une régulation politique de la société par le biais d'un mécanisme racial.
Quand ils s'organisent en société, les individus ont tendance à se différencier les uns des autres. En ce sens, l'ordre politique a pour fonction d'assurer la régulation des individus. Mais la tendance naturelle de l'individu est de se différencier de l'autre. Ce phénomène peut se retrouver à chaque période de l'histoire d'une manière différente. Dans les sociétés sacralisées, les façons de l'expliquer renvoient à des justifications religieuses. dans les sociétés sécularisées, d'autres critères non religieux sont utilisés. Et c'est alors que le critère racial est mis en avant.
De esos criterios que el individuo utiliza para diferenciarse, quererse diferenciar de los otros. Esa es la razón que yo entiendo. Y cuando se contempla como un problema racial,
c'est ma façon de voir les choses.
En la Europa, en la España,
quand nous regardons comme un problème racial ce qui s'est produit en Europe et dans l'Espagne des 15e, 16e et 17e siècles, on peut dire que cette interprétation perd son sens, puisqu'elle s'écarte de la nature religieuse de la société.
A nosotros nos permite entender mejor. Porque es el lenguaje nuestro, ¿no? Que es más cercano a esa diferencia.
Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous qui appartenons à des sociétés sécularisées, nous comprenons mieux ce langage, plus proche d'une explication raciale que religieuse des conflits.
Lo entendemos mejor, ¿no? Y por eso utilizamos la palabra y la idea.
C'est pourquoi nous utilisons le mot et l'idée de racisme pour expliquer les conflits qui ont eu lieu entre les individus au cours de ces siècles.
Vous le verrez sans doute avec des interlocuteurs espagnols. Les Espagnols sont très attentifs à ce que ne soit pas reproduite ce qu'on appelle la légende noire, qui attribuerait aux Espagnols absolument toutes les brutalités, tous les vices, tous les fanatismes et toutes les intolérances, accusations qui leur est adressée depuis 400 ans, 500 ans, le franquisme n'ayant en l'occurrence pas vraiment aidé à démanteler cette légende noire. Mais ceci étant dit, la limpieza de sangre, ou pureza de sangre en portugais, c'est vraiment ibérique. Il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces deux sociétés-là ont été absolument à l'avant-garde du reste des sociétés européennes pour ce qui est de l'expansion coloniale et impériale à partir, non pas, comme on dit, de 1492, mais en réalité, pendant tout le XVe siècle, puisque les Portugais mettent le pied à Ceuta, donc au Maroc, en 1415, et que, ensemble, les Portugais et les Espagnols ont conquis et à peu près totalement exterminé la population des Canaries pendant le XVe siècle. Et les hommes espagnols qui ont fait la conquête de l'Amérique avaient comme appareil idéologique et comme mode de régulation du politique en tête leur expérience espagnole qui était profondément marquée par tout ce que nous venons de dire. Et lorsque ces hommes arrivent en Amérique, en général, 9 mois après le moment où ils mettent le pied à terre, commencent à naître des enfants métis. Tous ceux qui étaient nés dans des couples dans lesquels le père n'avait pas épousé la mère, dans leur immense majorité, les métis étaient considérés donc, du point de vue du droit espagnol, comme des bâtards. Et du point de vue du droit espagnol, un bâtard ne peut pas être limpio de sangre, ne peut pas être propre. Donc, la logique de la limpieza de sangre a été une ressource permettant de réguler la vie sociale au sein de la colonie, pendant ce long siècle espagnol et portugais, au cours duquel seuls les Espagnols et les Portugais ont, en quelque sorte, produit une société coloniale aux Amériques. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que ce que les Européens ont fait en Amérique, avec, encore une fois, une antécédence historique massive des Espagnols et des Portugais en termes de temps, c'est-à-dire qu'ils sont là quand même 110 ans avant que les Anglais, les Hollandais, les Français commencent véritablement à organiser des petites colonies dans l'hémisphère occidental. Et cette histoire-là, elle a partie liée avec cette représentation du monde qui permet de catégoriser à travers l'instrument du lignage ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont inférieurs, ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. Et cet équipement-là n'a pu qu'être renforcé par les dynamiques sociales propres au fait colonial. Et donc, cette histoire continue, en effet, au-delà de la péninsule, et prend donc une ampleur quasiment, je dirais pas mondiale, ça veut rien dire, mais en tout cas, une ampleur transrégionale massive, qui met au contact 3 continents, quand même.
Abre tu puerta cerrada. Partimos rusa, partimos de aquí.
L'exclusion par la pureté de sang. Avec Javier Castaño, Jean-Frédéric Chaube, Ignacio Pulido et Mohamed Saadan. Lecture, Hélène Losseur et Didier Lagarde. Chant des rabbins, Marc-Alain Waknin et Florian Chinsky. Traduction, Daniel Larald del Solar. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Prise de son, Yann Fressy et Julien Douminc. Mixage, Bruno Mourlan. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffy Mariani.
La hermosura tua dispora, la merisco solo io, la merisco solo.